Ce message vous est proposé par l'Église protestante évangélique de Lons-le-Saunier.
Et je vous avoue qu'à chaque fois que je viens, je suis toujours émerveillé de voir, enfin, c'est pas toujours, mais presque toujours, lorsque je viens prêcher chez vous, eh bien, celui qui fait la présidence m'introduit très bien et parle déjà de certaines choses que je veux parler. Et tu as souligné la question de « est-ce difficile d'être un chrétien ?» Et le message que j'aimerais vous donner aujourd'hui de la part de Dieu peut répondre à cette question et peut apporter des éléments de réflexion. Nous serons ensemble ce matin dans le livre de la Genèse, au chapitre 39. Si vous voulez prendre vos Bibles pour suivre avec moi, on va prendre le chapitre en entier. Même s'il est un peu long, on ne va pas tout lire d'un coup, mais on va couper en plusieurs fois. Et je vais donc vous lire. Nous allons voir une personne qui a dû payer cher le prix de son appartenance à Dieu. Quelqu'un qui a été éprouvé par Dieu. Il a été éprouvé dans son intégrité et Dieu l'a mis à l'épreuve, savoir s'il tiendrait jusqu'au bout. Et je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Dans Genèse chapitre 39, je veux parler de Joseph. Alors, un autre Joseph, qui n'est pas celui, le père adoptif, on pourrait dire, de Jésus, mais Joseph, dans l'Ancien Testament, un des fils de Jacob. Et pour vous faire un petit peu réfléchir, Joseph, il a vécu, comme peut-être certains parmi nous, dans une famille difficile, une famille où l'obéissance à Dieu n'était pas toujours au rendez-vous. La famille de Jacob, on le sait en lisant les pages avant Genèse 39, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Jacob avait deux femmes et deux concubines qui chacune ont eu des enfants, et c'est une famille qui a été dysfonctionnelle, une famille où il n'y avait pas forcément beaucoup d'amour, pas toujours, mais beaucoup de rivalité, beaucoup de querelles, beaucoup de haine en fait. Si bien que Joseph, lui, il va grandir dans une famille où il sera le fils préféré de son père. Jacob a une préférence très marquée pour Joseph et il va le faire sentir aux autres enfants. Et également, Joseph, il est naturellement détesté de ses frères. Donc voilà le genre d'ambiance dans laquelle Joseph a grandi. Fils préféré d'un père et frère détesté plus que tout. Ses frères l'ont détesté à un point que, à un moment, ils ont saisi une occasion où ils étaient loin de leur père, tous les fils. Ils ont mis la main sur Joseph et ils ont désiré le faire mourir. La haine allait jusque-là. Finalement, l'un d'entre eux les a convaincus de ne pas tuer leur frère, mais ils ont décidé, à peine mieux, de le vendre comme esclave. Il y avait une caravane de marchands qui passait par là. Et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on le tuerait? Son sang serait sur nos mains. On a une meilleure solution, on va le vendre. Et donc, ils l'ont vendu à une caravane de marchands. Et Joseph a été emmené de force en Égypte pour être vendu comme un esclave. Voilà, Joseph avait 17 ans lorsqu'il a vécu ces choses. Il arrive en Égypte et il se retrouve dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar. Et on arrive là à notre texte. On va déjà lire une première partie de Genèse chapitre 39. Et ce que j'aimerais simplement souligner, si vous voulez retenir une chose de ce que je vais partager ce matin, c'est que même dans l'injustice, nous devons marcher avec intégrité devant Dieu. On va voir déjà en premier que Joseph est béni par l'Éternel dans cette situation difficile où il est esclave. Donc on va déjà lire donc Genèse chapitre 39, je vais vous lire les versets 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après avoir été vendu comme un esclave en Égypte, Joseph se retrouve dans cette situation où il est acheté par quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, Potiphar. Il nous est dit qu'il était un officier de Pharaon, un chef des gardes. Si vous voulez faire simple, c'était le chef de la sécurité intérieure. On pourrait dire aujourd'hui celui qui est en charge de la protection du président de la République. On pourrait dire ça. Donc vous voyez qu'il est introduit dans une maison, il n'est pas chez n'importe qui. Il est chez Potiphar. Et je trouve intéressant de souligner que l'on voit dans cette première partie la bénédiction de l'Éternel qui est sur Joseph. Alors que Joseph vient de vivre un drame, être vendu comme un esclave, malgré tout, Dieu est présent avec lui et Dieu le bénit, si bien que tout ce que fait Joseph lui réussit. Il a du succès dans tout ce qu'il entreprend. Et Potiphar, lui, il va remarquer cela. Il va voir que le Dieu des cieux est avec Joseph. Et en réfléchissant à ce constat, ça m'a fait penser à un autre homme que l'Éternel a encouragé. Il s'agit de Josué. Josué à qui Dieu a donné cette parole dans Josué 1, versets 8 et 9. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. » Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On voit que c'est une parole que Joseph a vécue avec le Seigneur. Il a vécu cette relation avec Dieu d'intégrité et en conséquence Dieu l'a béni. On est dans l'Ancien Testament. Et ça me fait penser à l'importance de la présence de Dieu, comme tu disais aussi dans la présidence, et importance que l'on doit rappeler dans cette période de Noël où Dieu s'est fait homme. La signification du prénom Emmanuel, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça signifie Dieu avec nous. La grande bénédiction que Dieu accomplit en Jésus-Christ. Et que Joseph a connue aussi d'une autre manière. Dieu était présent avec lui dans l'adversité, là où il était, dans sa situation d'esclave, et il lui a donné du succès, de la réussite. Potiphar, lui, en remarquant que Joseph réussit tout ce qu'il touche, eh bien il n'est pas idiot, et il va lui confier petit à petit de plus en plus de missions dans sa maison, parce qu'il voit que tout ce que fait Joseph réussit. Si bien que Potiphar va décider d'employer Joseph à son service, ce qui nous est dit au verset 4. Donc on voit qu'il n'est plus tout à fait un esclave, il est employé au service de son maître. Ensuite, encore plus loin, Potiphar va l'établir sur sa maison. Il va lui confier tout ce qu'il possède. Joseph va donc avoir un rôle maintenant, non plus de simple esclave qui balaye par terre, mais il va être celui qui gère la maison de Potiphar. Cet officier, ce haut officier égyptien. Il lui donne en fait une place honorifique, alors que Joseph est parti de rien. Mais Potiphar a remarqué la bénédiction de Dieu sur lui. Et donc, il lui abandonne tout ce qui concerne le fonctionnement de sa maison. Le texte nous dit clairement que la seule chose que Potiphar regarde encore vis-à-vis de Joseph, c'est comment il va prendre sa propre nourriture. Parce qu'il faut savoir en ce temps-là que les Égyptiens avaient des rites, ils avaient leur propre dieu, et ils avaient leurs rites, leur façon de prendre leur nourriture, qui ne correspondait pas du tout à ce que faisaient notamment les Hébreux. Et la seule chose que Potiphar vérifie, c'est que sa nourriture a été préparée selon les rites égyptiens. Voilà la seule chose qu'il veut savoir par rapport à tout ce que Joseph fait dans sa propre maison. Donc vous voyez, même le texte nous dit qu'il abandonne aux mains de Joseph. Vous voyez, Potiphar, il laisse Joseph gérer sa maison. Et c'est un peu comme si Joseph prenait la place de Potiphar, en fait. Il gère tout ce que Potiphar est censé faire, et comme ça, Potiphar, à côté, lui, il peut profiter de la vie, il peut aller au golf avec le pharaon, s'il en a envie. Et Joseph s'occupe de tout. Il a confiance en Joseph, parce qu'il sait que tout va réussir. Parce que Joseph est béni par l'Éternel. Joseph commence donc à remonter un peu la pente. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, il a été vendu par ses frères, situation de famille désastreuse. Il a été vendu comme un esclave, le plus bas de l'échelle sociale. Et finalement, il remonte la pente. Il est dans cette maison de prestige, la maison du chef des gardes, et il s'occupe de tout ce qui concerne son maître. Donc enfin, après avoir tant souffert, Dieu l'accompagne, Dieu le bénit, et Joseph remonte la pente. Et nous voyons dans la fin de ce petit passage que je vous ai dit, que je vais vous relire. « Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. » On peut se demander, mais pourquoi est-ce que le texte nous précise ça? Qu'est-ce qu'on en a à faire que Joseph était quelqu'un d'assez attrayant? Et c'est là où j'en viens à la deuxième chose que je voulais vous dire. Joseph, après avoir été élevé à nouveau par Dieu, il va maintenant être testé sur sa droiture. C'est ce qui correspond à nos versets 7 à 12, que on va lire maintenant ensemble. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Joseph ici est testé sur sa droiture. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, la femme de Potiphar, elle voit que Joseph a plus ou moins pris la place de son mari. C'est lui qui fait tout. Son mari ne fait plus rien, à part prendre sa nourriture. Joseph est beau de taille, il est beau de figure. Et naturellement ou pas, elle a des désirs sexuels le concernant. Elle veut coucher avec lui. Mais Joseph, lui, refuse. Il lui dit non. Joseph, lui, qui a été élevé par Dieu dans cette maison, il s'interdit de faire ce qui serait porté premièrement contre Dieu lui-même. Je trouve marquant de voir la déclaration de Joseph. On pourrait dire humainement, avec nos regards, si Joseph faisait ça, le premier qui serait blessé, ce serait le mari, ce serait Potiphar, ce serait le premier qui serait... En qui Joseph serait en faute. Et je trouve marquant que Joseph dit premièrement que le premier à être touché par le péché, c'est Dieu lui-même. Lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, ce n'est même pas la personne en premier qui est touchée, mais c'est Dieu en premier. Et c'est là qu'on peut dire qu'il n'y a pas de petit péché devant Dieu. On ne peut pas juste dire « Ah, mais j'ai menti une fois, c'est pas si grave ». Devant Dieu, cela est grave. Et Dieu veut que nous demeurions dans la droiture. Et Joseph, lui, l'a bien compris, et il ne veut pas désobéir à ce que l'Éternel veut. Mais voilà, la femme de Potiphar, c'est une tête de mule. Elle insiste, et le texte nous précise, qu'elle va le voir tous les jours. Imaginez-vous à la place de Joseph, vous êtes établi sur la maison de votre maître, de Potiphar, vous devez gérer... comment se passent les choses dans la maison. Et bien sûr, oui, Potiphar, il est absent, il profite de son temps libre, et la femme de Potiphar, elle est là. Et tous les jours, elle vient vers vous pour avoir des relations, faire quelque chose que vous ne voulez pas, tous les jours. Et vous voyez là l'insistance, l'usure qui se met en place pour faire tomber Joseph. la femme de Potiphar veut le faire tomber, veut avoir ses relations avec lui, et elle fait tout ce qu'elle peut pour que ça arrive. Vous voyez qu'elle fait une fixette sur lui, si je peux me permettre l'expression. Elle insiste, et elle veut que Joseph se plie à ce qu'elle veut. Elle, elle veut. Mais pourtant, Joseph va tenir bon, malgré cette insistance, et il va même jusqu'à fuir sa présence, le texte nous dit. Il évite sa présence, il ne veut plus être à côté d'elle. Et parfois, ça nous fait réfléchir que parfois, lorsqu'on est dans des situations de tentation, lorsque nous sommes sur le point de désobéir à Dieu, la fuite est parfois la seule solution possible. Et on voit que Joseph, lui, l'a vécu. Il ne pouvait pas raisonner. Il a essayé de raisonner cette femme en lui expliquant pourquoi il ne voulait pas. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle continuait d'insister. Et du coup, il a été obligé de choisir la fuite, de fuir sa présence. Et on voit ici que Joseph tient droit dans ses bottes. Il aurait pu se dire, ah mais de toute façon, moi j'ai la place de Potiphar, je fais le même boulot que lui, son boulot c'est même moi qui le fais, lui il profite de son temps libre, mais en fait Potiphar c'est moi, et sa femme, je pourrais la prendre, c'est normal, j'ai sa place, c'est moi qui fais tout, et c'est moi qui devrais être Potiphar, et Potiphar lui, il devrait être mon esclave, il ne fait rien, mais Joseph lui, il tient droit dans ses bottes. Il sait ce que Dieu attend de lui et il veut être intègre. Il veut garder sa droiture. Et j'en arrive maintenant à la troisième chose que je voulais vous dire. Joseph va devoir payer le prix de sa droiture. Et on va lire maintenant à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Joseph doit maintenant payer le prix de sa droiture. On pourrait penser que, vu l'attitude de Joseph, vu qu'il a choisi de tenir bon, de ne pas céder et d'être fidèle à Dieu, eh bien Dieu va le délivrer, Dieu va arranger la situation, il va protéger Joseph. Et pourtant, nous voyons ici dans ce texte l'inverse. Joseph va devoir payer fort pour être resté droit devant Dieu. L'épouse de Potiphar va appeler tout le monde, les gens de la maison et un peu plus loin son mari, et elle va falsifier la vérité pour accuser Joseph à tort, pour se venger en fait de Joseph qui n'a pas voulu céder, qui n'a pas voulu avoir ses relations avec elle. Elle va le prendre en haine et elle va choisir de l'accuser de viol alors que c'était plutôt l'inverse, c'est plutôt elle qui a fait tout son possible pour avoir ses relations avec Joseph. Et elle va accuser Joseph devant tous les gens de la maison, c'est-à-dire les personnes sur qui Joseph a autorité. Rappelez-vous, Joseph, c'est un peu le patron dans cette maison. Et elle va déjà le dire à tout le monde, tous ceux qui sont employés au service sous l'autorité de Joseph. Et elle va accuser Joseph avec ce mensonge devant eux. Et un peu plus loin, quand Potiphar revient de ses loisirs, son épouse va donc porter l'accusation devant lui. Et en réalité, si vous avez remarqué, elle va souligner qu'en fait, c'est de la faute de Potiphar. C'est parce que lui a amené un esclave hébreu que la chose est arrivée. Donc en fait, c'est même pas tant que ça la faute de Joseph, mais surtout celle de Potiphar. Et là, vous voyez que dans la relation entre Potiphar et sa femme, il y a un peu d'eau dans le vin. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et on voit déjà un début d'explication pourquoi est-ce que la femme de Potiphar s'est tournée vers Joseph. on voit que dans la relation avec son mari, les choses ne se passent pas comme il faudrait. Je ferme la parenthèse. On voit en fait une relation de couple qui n'est pas du tout bonne. Et Potiphar va décider, il va se mettre en colère, et il va décider de jeter Joseph en prison. Ce qui, en fait, est assez surprenant. Rappelez-vous, Joseph, il est au service de Potiphar, il n'est plus tout à fait un esclave, mais malgré tout, il a toujours ce statut d'esclave. Et normalement, dans l'Égypte antique, à cette époque-là, quand ce genre de choses arrivait, c'était la mort. Joseph aurait dû être mis à mort pour ce que, soi-disant, il a fait. Mais pourtant, Potiphar va décider de le jeter en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et je pense qu'on peut voir là que peut-être Potiphar se posait des questions sur sa femme, sur ce qui s'était réellement passé. Je ne suis pas sûr qu'il accordait vraiment du crédit à ce que sa femme déclarait. Mais ça, après, c'est moi qui parle. Et je pense que ça peut expliquer pourquoi il se contente de le jeter en prison. On peut aussi y voir là la main de Dieu sur Joseph, qui ne va pas permettre qu'il meure, parce que Dieu a des projets pour Joseph. Il ne veut pas que l'histoire de Joseph s'arrête là. Et c'est là où j'en viens à la dernière chose que je voulais voir avec vous, on va finir notre chapitre. Joseph finit dans la prison, mais Joseph est béni par l'Éternel. On va lire ensemble les versets 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Je ne sais pas si ça fait écho chez vous à quelque chose, mais on en revient un peu à ce que je disais au début de ma prédication, les 6 premiers versets. Joseph est béni par l'Éternel, même dans la situation dans laquelle il est. Il a été jeté en prison, une prison qui n'est pas une simple prison, c'est une prison politique. Le texte nous précise qu'il est jeté dans une prison où les prisonniers du roi sont enfermés. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui dérangent le roi, des adversaires politiques, des concurrents. Vous voyez que c'est le genre de prison qui est un peu plus rude, un peu plus dure que les autres prisons, on pourrait dire, où on peut être placé en détention pour un vol ou pour d'autres choses. Là, on est dans une prison politique. Et Joseph est plongé dans cet endroit. On a l'impression, en fait, qu'il dégringole à nouveau. Alors que l'Éternel l'avait béni, l'Éternel l'avait établi sur la maison de Potiphar, Joseph était resté droit dans ses bottes quand la tentation est arrivée. Il a choisi d'être fidèle à Dieu. Et là, on voit qu'il perd tout pour finir dans cette prison. Mais malgré tout, la bénédiction de Dieu est là. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu ne consiste pas dans la sécurité matérielle de Joseph. L'Éternel est avec Joseph, même si Joseph vit ces choses difficiles. Et j'aimerais que cela aussi puisse nous encourager, nous, lorsque nous sommes dans des périodes difficiles, quand nous traversons les épreuves de la vie, je ne sais pas vous, mais moi souvent la première question que je me pose c'est « Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé tomber dans cette situation difficile ?» Et j'aimerais vous faire réaliser que la bénédiction de Dieu, elle est aussi présente dans les moments difficiles, quand nous affrontons des situations de vie qui parfois sont de notre faute et parfois non. On voit ici Joseph, ce n'était pas de sa faute. Et malgré tout, il a vécu ces choses. Et malgré tout, Dieu a été avec lui. Et j'aimerais que cela puisse aussi vous encourager dans cette période de Noël où nous fêtons la venue de Jésus, Emmanuel. Dieu est avec nous. Que effectivement, Dieu est avec nous. Dieu veut nous accompagner dans tout ce que nous vivons si nous l'avons accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Il est présent. On voit que pour Joseph, il a vécu cette présence de Dieu, où Dieu donne de la réussite à tout ce qu'il fait. Après avoir perdu une deuxième fois tout ce qu'il avait, encore une fois de façon injuste, l'Éternel bénit Joseph dans l'adversité. Si bien que le chef de la prison va prendre une décision, il va décider de confier la gestion de la prison à Joseph. Je ne sais pas si ça vous marque, mais est-ce que vous trouvez normal qu'un prisonnier se retrouve dans le rôle de directeur de prison? C'est quand même surprenant. Et c'est là qu'on voit la main de Dieu qui a poussé ce chef de la prison à tout confier à Joseph, qui est un prisonnier. Il est un prisonnier, il est accusé d'un crime, et malgré tout, c'est lui qui va tout gérer. Il va gérer les prisonniers. Et on voit ici quand même que Dieu est au contrôle de la situation. Et Dieu a un projet pour Joseph. Il se retrouve une deuxième fois, Joseph, en fait, dans une place de gestionnaire, où il doit gérer, presque on pourrait dire, un empire. Il devait gérer la maison de Potiphar, qui était une maison très importante. Il doit gérer maintenant une prison. On imagine que la prison, il y avait probablement beaucoup de monde. Et on voit là Dieu qui prépare son serviteur. Dieu est en train de préparer son serviteur pour des choses plus grandes encore qui l'attendent. Joseph est en train d'apprendre dans ce chapitre de Genèse 39, dans ses difficultés, dans cette persécution, il est en train d'apprendre l'intégrité dans son travail. Il apprend à servir Dieu de ses mains en étant intègre. Donc, dans son travail, la gestion des choses qu'on lui donne, dans sa vie personnelle, comment est-ce qu'il doit gérer l'injustice, ça Joseph, il l'a appris en Genèse 39, gérer l'injustice. Et sa vie personnelle, comment est-ce qu'il doit se comporter avec les autres, par rapport notamment à la femme de Potiphar, le fait de mettre des limites, il y a des choses que Dieu attend de moi et des choses qu'il ne veut pas que je fasse. L'Éternel est en train de préparer toutes choses pour un plan qui dépasse Joseph, un plan dont celui-ci n'a même pas encore conscience. On finit notre texte là, Joseph est dans la prison. La bénédiction de l'Éternel est sur lui. Et j'aimerais conclure en vous rappelant que Joseph, il n'a jamais eu de révélation directe de Dieu. Et je trouve que c'est très marquant. Vous savez, dans le livre de la Genèse, on voit particulièrement l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob et l'histoire de Joseph. C'est un peu la deuxième partie de Genèse couvre la vie de ces quatre hommes. Et pour Abraham, Isaac et Jacob, chacun d'entre eux a eu une révélation directe de Dieu. Dieu s'est révélé et leur a parlé directement. Joseph est le seul à qui Dieu n'a pas parlé directement. Mais Dieu lui a parlé notamment par des songes, mais pas directement. Joseph a en fait appris à servir et à honorer l'Éternel dans les mauvais jours, sans avoir de révélation directe de Dieu. Et je trouve que c'est très encourageant pour nous de nous dire, il y a eu aussi un homme qui a vécu des choses, parfois peut-être similaires à nous, où on vit des situations d'injustice et Dieu ne parle pas. Dieu est silencieux. Et c'est dur à gérer. On aurait envie que Dieu se révèle, Dieu nous montre, Dieu nous explique pourquoi ces choses nous arrivent, qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre. Mais mes amis, Dieu ne fonctionne pas comme ça avec tout le monde. Et c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, on peut être confronté à ce silence de Dieu, dans la douleur, dans la souffrance. Et j'aimerais vous encourager par cet exemple de Joseph. Joseph, même dans l'injustice, il a continué à marcher avec intégrité devant Dieu. Il a continué à honorer Dieu dans sa vie et à marcher droit selon ce que Dieu voulait pour lui. Joseph est en fait un excellent exemple de gestion de la souffrance et de l'injustice. Il marche avec Dieu dans la confiance, même s'il ne sait pas tout, même si Dieu ne lui explique pas. Et il renonce à se faire justice soi-même, alors qu'il était dans son droit, il n'était pas coupable, mais il a souffert l'injustice. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Même dans l'injustice, marche avec intégrité devant Dieu. Je vais terminer par la prière. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole, pour ce texte de Genèse 39, où on voit ton serviteur Joseph qui a connu des choses difficiles, comme nous aussi, Seigneur, nous pouvons connaître des choses difficiles à traverser. Et j'aimerais te remercier pour cet exemple que tu nous donnes au travers de Joseph, lui qui a choisi de marcher avec intégrité devant toi. Il n'a pas voulu, Seigneur, se faire justice toi-même, il ne t'a pas tourné le dos, mais il a choisi d'être de marcher en conformité avec ce que tu voulais pour lui. Merci parce qu'on peut voir aussi dans toutes ces difficultés que son secours, c'était toi, c'était ta présence, Seigneur, la bénédiction que tu mettais sur lui dans les situations qu'il a vécues. Et j'aimerais te demander, Seigneur, que cela puisse nous encourager pour notre semaine, pour cette période aussi de Noël, Seigneur, nous rappeler que tu es présent au milieu de nous et que tu nous aides à traverser les moments difficiles. Merci parce que tu nous donnes ton esprit qui nous aide à aller de l'avant, qui nous forme, qui nous éduque, qui nous rappelle tes paroles, ta parole. Et Seigneur, j'aimerais te demander que nous puissions grandir en toi, que Seigneur, nous puissions tenir ferme dans ce monde qui se perd, que nous, Seigneur, nous soyons toujours attachés à toi et que nous ayons toujours ce désir de marcher avec toi comme tu nous le demandes. Amen.
À bientôt sur notre site.